soi, au contraire, et puisque vous êtes peu nombreux, on pourra en discuter, c'est simplement une proposition. Si vous avez des questions qui sont restées en suspens sur tout ce que vous avez déjà appris dans ce séminaire ou entendu, que l'organisme est exposé après avoir entendu votre proposition. Voilà. On est devenu un peu plus occupant que vous avez. Je voulais, pour vous aider, donner un peu de temps de réfléchir à cela. Je me proposais, dans tous les cas, de parler de deux points qui ont été touchés dans la première partie de l'exposé de M. Rossi. Vous vous rappelez, dans son exposé, il y avait deux parties. Premièrement, il a posé le problème général des rapports entre la culture juive et la culture grecque de façon exactement opposée à celle que j'avais moi-même prise dans les cours du matin. Vous vous rappelez de cela, vous avez dû le remarquer, ceux qui ont suivi les deux enseignements. Donc ça vaudrait la peine, je suis désolé qu'il ne soit pas là, je ne sais pas non plus de parler sans qu'il soit là, mais enfin, c'est un déterminage de l'orphidouche, mais enfin, c'est une mise à l'étudier l'orphidouche. Et selon laquelle Maïmonide aurait eu des réserves sur l'enseignement du Midrash. Et je pense que tout le monde, ce n'est pas la peine d'expliquer, sait ce que c'est que le Midrash. D'ailleurs, nous aurons une étude dimanche après-midi sur le thème Mythe et Midrash. Et je voudrais vous donner deux références à ce sujet, que nous avons étudié ce texte, et d'autre part, prendre un point précis de l'enseignement de Maïmonide dans les Shmoné Prakim, de toute façon, plus analytique que cela a été fait l'autre soir, et qui montre à l'évidence qu'il a là une position opposée à celle de l'ensemble, en tant qu'ensemble, de la mentalité de ce que nous pourrions appeler la philosophie grecque, c'est déjà un petit peu précis, mais disons l'attitude de pensée grecque, ce qui nous permettra d'ailleurs de nous relier avec un certain nombre d'analyses que nous avons eues à propos du Ravoutner en particulier. La différence entre langue grecque et pensée grecque, vous vous rappelez, cette question a été posée, nous n'avons pas encore eu le temps de l'étudier. Et puis, je reviendrai, je pense que c'est important de le faire, sur le schéma d'enseignement du Ravoutner, qu'il y a un domaine où les coordonnées, les postulats, les catégories de la culture grecque telle que nous les connaissons sont légitimes, et il y a un autre domaine où cela est illégitime. Quels sont ces domaines? Et vous vous souvenez, à travers tous les textes que nous avons vus, tant avec moi-même qu'avec Michel, cela rejoint la question de l'ambivalence, non pas l'ambiguïté, parce que c'est très clair, c'est pas ambigu, mais l'ambivalence du jugement porté par la conscience juive sur ce qu'a représenté le fait culturel grec. D'un côté, et dans le domaine où l'application des catégories grecques de déterminisme sont légitimes, d'un côté, c'est un jugement de positif, de félicitation. D'un autre côté, lorsque ces catégories envahissent un domaine qui leur est illégitime, c'est un jugement de condamnation. Et M. Rossi n'a pas envisagé la question sous ce biais, mais pour lui, vous vous souvenez, je me rendrai à le rappeler très rapidement, pour lui, il est de ceux qui pensent, si je me souviens bien de son attitude, mais vous m'en souvenez avec moi, qu'il y a compatibilité étroite entre les deux cultures, grecque et juive, et la cité maïmonide comme témoin de cette compatibilité parfaite. Bon, je n'ai pas besoin de vous répéter que j'ai dans ce problème, on ne peut pas tellement schématiser, il faut quand même nuancer, mais je schématise une position absolument opposée. J'ai touché un peu ce point hier matin, dans une de mes interventions dans le cours du matin, en vous parlant des limites de la légitimité de la méthode des historiens lorsqu'on traite d'une tradition de pensée. Et je crois que M. Rosti a tout simplement enchaîné sur une espèce de cliché, je sais bien que ce terme est négatif, mais je l'emploie quand même, de cliché assez classique des historiens de ces problèmes, de pensée juive et de pensée grecque et à propos de Balzadine, des clichés qui avaient cours déjà depuis la fin du XIXe siècle et qui sont repris et développés, en particulier dans les universités israéliennes de notre temps et depuis le début du XXe siècle. Des clichés selon lesquels Maïmonide représenterait un cas type d'une personnalité de synthèse entre la culture grecque et la culture juive. Les choses sont loin d'être aussi simples que ça. Voilà donc, si vous voulez, le moquet, enfin, le foyer de l'analyse que je vous invite à faire à propos de ces deux remarques. Premièrement, ce qui concerne le Midrash. Vous verrez vous-même que dans l'introduction au commentaire de la Mishnah que Maïmonide nous a donné et qui, dans les éditions classiques du Talmud, se trouve après la Massechet de Brachot et avant le Seder Zoraïm, c'est une longue introduction à son commentaire de la Mishnah. Lorsqu'il parle du Midrash et de la Haggadah, le Maïmonide dit qu'il y a trois catégories. Le mot qu'il emploie, ce n'est pas des sectes, mais trois groupes par rapport à ce problème du Midrash. Il dit que les deux premiers groupes, il est assez facile d'en parler. Le premier, ce sont ceux qui prennent les Midrashim à la lettre et y adhèrent avec leur lecture littérale, en suivant et en acceptant ou adoptant à la lettre ce qu'ils ont compris lorsqu'ils traduisent le texte du Midrash. Et il dit ceci est une attitude qu'il faut, une méthode qu'il faut condamner. Parce que la formulation du Midrash enferme un contenu de sagesse qui n'est pas perceptible à simple lecture, à qui n'a pas un guide de lecture. Ce que j'appellerai tout à l'heure avec une deuxième référence de Rabbi Mochai Gaon, la deuxième référence n'est pas de Rabbi Mochai Gaon, c'est de Shmuel HaNagid, ce que j'appellerai le maître. Le maître qui fait le pont entre la tradition orale et sa mise par écrit, c'est-à-dire celui qui restitue la nature orale de ce qui a été mis par écrit, non pas qui interprète ou qui commente, ce sont d'autres dimensions, mais qui fait lire littéralement. Le premier mot de maître dans la tradition talmudique, c'est le moré. Le moré, c'est celui qui montre, qui fait lire, qui aide à lire. Vous savez d'ailleurs qu'il y a un sens de Torah, Hora'a, enseignement, qui est très proche de ce sens de moré, celui qui fait voir. Alors donc, Maïmonide, vous recevez vous-même ces références, Maïmonide dit une première catégorie de gens. Ceux qui étudient les Midrashim sans maître et prennent à la lettre ce qu'il y a d'écrit sans le comprendre. Il faut condamner cette attitude. C'est l'attitude des, je ne veux pas dire la foi du charbonnier, mais enfin disons à la limite des ignorants, de la foi des ignorants. Et dit que ce n'est pas, parce que finalement on fait dire au Midrash, mais on risque de faire dire au Midrash des choses qui n'ont aucun sens en réalité. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui prennent les Midrashim à la lettre, mais les rejettent puisqu'ils ne les comprennent pas, puisqu'ils ne comprennent que des choses plates, enfin je ne sais pas comment dire, que des choses qui n'ont pas de sens pour la raison. Vous voyez, il y a un point commun entre ces deux catégories. Ça consiste d'étudier les Midrashim par soi-même en traduisant ces formules qui enferment de la sagesse, mais sans la clé intérieure de cette sagesse. Les uns adoptent telles quelles, et Maïmonide dit qu'il faut condamner cette attitude, les autres rejettent telles quelles, et Maïmonide dit qu'il faut aussi condamner cette attitude. La troisième catégorie, Maïmonide dit, je ne sais pas si on peut dire catégorie, parce que les membres de cette catégorie se comptent sur les doigts de la main, dit Maïmonide, dit ceux qui sont capables de comprendre la sagesse qui est enfermée dans ces Midrashim, et sachent, nous dit Maïmonide, que c'est une sagesse absolue. En conséquence, vous voyez, ces clichés qui nous viennent des analyses des historiens. Ce sont vraiment, est-ce qu'il y a un autre terme pour cliché pour expliquer ce que je voudrais expliquer, ce sont des poncifs, voilà.
Formulation.
Que puisse, non, laissez-moi parler. Puisque Maïmonide est censé être connu comme rationaliste, donc ça va de soi qu'il rejette le Midrash. Oui, ce sont des poncifs, en fait, des clichés, je ne sais pas comment dire ça. Est-ce que c'est suffisamment clair? Enfin, vous pensez bien que ce n'est pas l'absence de M. Rossi qui me met à l'aise pour dire des adjectifs un petit peu aussi tranchés. Je pense exactement ce que je dis exactement ce que je pense, et s'il était présent, j'essaierais de lui faire comprendre que je ne parle pas de lui, mais de l'ensemble des historiens de méthode universitaire sur ces problèmes. Ce sont des jugements actifs et non basés, et faux dès qu'on se réfère aux citations même de Maïmonide lui-même. Voilà la première référence que je voulais vous donner par rapport au Midrash. Je vais vous en donner une deuxième, par rapport au même thème, dans le Mevo HaTalmud, Introduction au Talmud, de Shmuel Hanavi, qui est un des grands talmudistes du Moyen-Âge, et c'est une référence que l'on cite souvent, et je vais essayer de vous montrer qu'elle veut dire en réalité le contraire exactement de ce qu'on veut lui faire dire concernant l'autorité du Midrash. Bien. Voici, dans ce Mevo HaTalmud, de Shmuel Hanavi se présente comme une sorte de glossaire. C'est comme si on dit glossaire ou glossaire, je sais pas. Pardon ? Glossaire, oui. Glossaire, c'est quoi d'ailleurs ? Une sorte de lexique, ok ? Une sorte de lexique où il prend les mots-clés du vocabulaire talmudique et puis il les explique un par un. Par exemple, pour vous en donner la liste depuis le début, il va expliquer ce que c'est qu'une. Une Tosefta, une Braïta. Je vous dis tout ça intentionnellement pour que vous compreniez mieux quelle est l'intention vraiment de Shmuel Hanavi dans son explication de ce que c'est que la Haggadah. Il va expliquer ce que c'est qu'une Kushya, une question, une objection, une difficulté, vous voyez, Kufta, chaque mot technique du langage, du vocabulaire talmudique. Il arrive à Haggadah. Et Haggadah, et voilà ce que c'est que la Haggadah, avec le sens de l'explication midrashique. Hein? Je parle intentionnellement, non pas du midrash halakha, mais du midrash agada. Enfin, c'est ces espèces de, je cite les historiens, légendes talmudiques, légendes folkloriques talmudiques, légendes de la piété populaire qui sont entrées dans le Talmud, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour donner des sujets de thèse aux doctorants en Talmud. Les petites historiennes d'enfantillage du Midrash. Hein? Alors il dit ceci. Ve'agada, ou, ça c'est Kol Pirush et Yavo Batalmud. Toute explication qui vient dans le Talmud, Al-Shum Enyan Shelo Yemizva, sur tout sujet qui n'est pas l'application halakhique juridique et halakhique du Mitzva. Tout le reste, tout ce qui est élaboration législative, c'est halakha. Tout le reste s'appellera agada. Et suivez bien ce que dit le Rav ici. Zo agada, ve'en lecha limod mimena, et tu n'as à apprendre d'elle, la agada, et là, marche ya'ale ala da'at. Comment nous allons traduire, et là, marche ya'ale ala da'at. Ça veut dire en français, que ce qui te paraît vraisemblable, que ce qui peut monter sur ta connaissance, ça veut dire s'intégrer à ta connaissance, évaluation, option, acceptation par l'intelligence et la raison. Et nous dirions en termes de ce débat que ce qui te paraît rationnel. C'est cette espèce de chose scandaleuse qu'apparemment on fait dire à Shmuel Hanavi qu'il y a dans le même corpus, dans le même ensemble de Talmud, des choses raisonnables et des choses déraisonnables, lesquelles ne peuvent pas être dites, j'ai en les maladas. Et tout de suite, je vous montrerai quelle est l'intention de Shmuel Hanavi, mais je veux d'abord mettre en évidence le caractère absolument invraisemblable qu'un talmudiste, comme Shmuel Hanavi, se permette une impertinence pareille. Enfin, vous comprenez ? Il va parler des grands du Talmud qu'il va suivre à la lettre. Chaque fois que ces grands du Talmud, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Yoshua, Rabbi Tachon, parlent de halakha, Et ces mêmes grands, lorsqu'ils vont parler de Haggadah, ce Shmuel Hanavi, qui est leur élève, va dire, ah, ici, ils ont dit une bêtise, je ne prends pas. Ça ne me paraît pas vraisemblable, je jette. Impertinence colossale. Vous voyez, on ne se rend pas compte ce qu'on fait dire aux gens lorsqu'on adopte cette méthode de cliché et de pontif de type universitaire, historien de la pensée. Est-ce que c'est clair? C'est intentionnellement que j'emploie un langage un peu polémique. J'aurais à dire en introduction aux études de dimanche après-midi que je ne suis pas et je ne me considère pas comme un universitaire du point de vue des méthodes universitaires en ce qui concerne le judaïsme, en ce qui concerne, vous voulez, la tradition juive et ses contenus. Ce que depuis longtemps, comme vous savez, j'essaye d'aider à faire, c'est un enseignement du judaïsme pour universitaire, et non pas l'inverse, et non pas un enseignement universitaire du judaïsme. Étant donné, est-ce que c'est bien clair cela? Étant donné la structure de la société juive, il est normal que dans une maison comme celle-là, il y ait des universitaires qui viennent aussi donner leur enseignement suivant les méthodes de l'université, mais il est bien clair que on ne peut pas imputer à Maïmonide rabbin ce qu'un historien de la pensée ou de la philosophie lui impute comme s'il était Maïmonide philosophe sans être rabbin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est invraisemblable, c'est plat d'ailleurs comme approche du problème. D'autant plus que, j'espère vous le montrer par des exemples bien précis, dès qu'on arrive sur les textes qui sont écrits comme ils sont écrits, eh bien, et qu'on n'a pas le droit de manipuler, on entend Maïmonide dire le contraire de ce qu'on lui fait dire à l'université. Est-ce que vous comprenez le scandale de ce problème? J'ai donné très gentiment l'autre soir un petit exemple, mais c'est passé comme ça parce que vous ne pouvez pas mettre les pieds dans le tapis, frapper les pieds dans le tapis, vous pouvez mettre les pieds dans le plat. Okay. Mais il faut bien faire attention à ce que lorsque Maïmonide parle, c'est un rabbin qui parle, et qu'il y a des attendus de la cohérence du discours d'un rabbin, de la classe et de l'envergure d'un Maïmonide. Vous comprenez, on ne va pas prendre un mathématicien en défaut sur une addition. On ne peut pas prendre un homme de la classe de Maïmonide en défaut sur une citation. Vous comprenez le problème? Bien, alors je referme là cette parenthèse en vous reprenant, je vais arriver tout à l'heure à un exemple dans Maïmonide lui-même, en reprenant ce que dit Shmuel Hanavi de ce que c'est Haggadah. Je reprends. C'est Haggadah, donc le Midrash Haggadah, où c'est Kol Pirush Yavo Talmud. Toute explication qui viendra dans le Talmud, c'est-à-dire dans le texte du Talmud, que nous rencontrons dans le texte du Talmud, Al Shum Inyan Shelo Iye Midrash, sur quelque sujet que ce soit qui n'est pas Midrash Halakha. Bien, ça on a compris déjà. Zo, Yi Haggadah. C'est cela qu'on appelle Haggadah, explication, pas Pirush, mais Haggadah. Du verbe les hadith, dire, raconter, expliquer. Expliciter si on veut faire un peu pédant, mais ça veut dire expliquer, les hadith. La raison pour laquelle ce mot de Haggadah, d'autre part, dans le vocabulaire, a pris le sens de légende, ne fait pas partie de notre sujet, mais je vous l'expliquerai très rapidement. Il me semble qu'il faut l'entendre, ce mot de légende français, dans son sens étymologique. De l'adjectif latin, l'adjectif verbal latin, qui était donné à être lu. Ce qui est donné, ce qui est mis par écrit, pour être donné à être lu par écrit. C'est le sens étymologique. Et donc, ce mot de légende, dans l'histoire de la langue, a changé de sens et de référence de très haute dignité au niveau de la sagesse, chez Nictan. Mikatev, qui a été destiné à être mis par écrit pour rester éternellement dans cette formule-là, on l'a mis par écrit, donc qui prend, si vous voulez, l'apparence et la forme, puisque l'apparence du mikra, de ce qui est donné à être lu, mikra. Mikra, ce mot hébreu qu'on traduit par les écritures en faisant un contresens fondamental. Mikra, ça veut dire la lecture et non pas l'écriture. Quand vous avez ces phrases, l'écriture sainte dit que, les écritures disent que, on dit en français le contraire de ce qu'il y a en hébreu. Le mikra, c'est la lecture et non pas l'écriture. Est-ce que c'est suffisamment clair? Vous voyez la différence de connotation et de catégorie. Hein? Alors, légende va un peu dans ce sens-là, dans son sens étymologique et originel. On en a fait légende dans le sens de mythe, historien, midrash, dans le sens de mythe. Bon, vous voyez, les torsions, les glissements de sens qui mènent à des le fait de fausser, comme on dit.
Contresens.
Non, le fait de fausser quelque chose.
Des falsifications.
Falsification des catégories, si vous voulez. Bien. Alors, nous avons là un chemin à la guide qui nous dit « Ve'en necha l'ilmod nimena » de cette agada-là. Tu n'as à apprendre d'elle et là, mashia ale, aladaat, et ça veut dire que ce qui te paraît vraisemblable. Et il y a un cliché dans la société juive, je ne sais pas si je dois dire comment expliquer cela, mais ce n'est pas forcément des ignorants, puisqu'ils savent énormément de choses, mais qu'ils ont appris par eux-mêmes, des autodidactes, si vous voulez, que ça va de soi, que c'est évident, que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce mot et la magie, que la halakha, même plus qu'une discipline intellectuelle absolue, quand Rabbi Akiva parle de halakha, ce qu'il dit, c'est, en français on dirait parole d'évangile, mais il faudrait dire Torah Sinaï, halakha le Moshe du Sinaï, c'est révélation du Sinaï, mais quand tu commences à faire de la Haggadah, tu veux dire, alors là il s'amuse, alors là, moi, venant des siècles après lui, ne sachant ce qu'il y a dans la Torah que grâce à lui, moi je peux dire, oh, ça me paraît vraisemblable, ça me paraît invraisemblable. Vous voyez la difficulté. C'est de l'impertinence que semble nous dire ici, je m'en ai dit, on n'a pas compris, on n'a pas encore lu ce qu'il veut dire. C'est d'abord que c'est très simple. La question pourrait être posée comme ça en hébreu. Et là, Mashiach Ali Aladat, Aldaatmi. Quelle est la raison de qui on a pris comme critère de dire juste la vraisemblable à partir de la vraisemblable.
La raison du possiteur.
Non, mais je pose la question. Quand on fait dire que ce qui est vraisemblable pour qui?
Pour celui qui reçoit.
Bon, alors, ça veut dire que Shmuel Hanagid, on aurait dû nous dire ça tout à fait autrement. Il nous aurait dit, si tu ne comprends pas, sache, si ça te paraît invraisemblable, sache que c'est parce que toi, le receveur, tu ne comprends pas. Il nous dit non, tranquillement, et tu n'as à apprendre de là que ce qui t'apparaît comme compréhensible et clair. Vous voyez l'impertinence? Bon, je continue. Veillez très chalada, et tu dois savoir, chez Kolma, chez Kimu, Chazal Halacha, que tout ce que nos maîtres ont formulé dans leur enseignement sur la Halacha, c'est-à-dire les catégories juridiques de l'élaboration de l'étude de la Torah, législative plus que juridique, n'est-ce pas? Benyan Mizra, au sujet du Mizra, chez où, Nipi, Moshe, Rabbeinu, Alav Shalom. Que ça nous vient de la bouche de Moïse, notre maître, que celui soit la paix, chez qui Ben Nipi, Agoura, qu'il l'a reçu de la révélation elle-même, et ne chale aussi par là, velo mikro amimenu, qui n'a ni ajouté, ni retranché, pour tout ce qui a halakha. Regardez, il persévère, et ici, on dit persiste ici, on va revenir là, ça devient de plus en plus impertinent par rapport à la gada de ces mêmes maîtres. C'est clair, vous voyez la difficulté? Ce même Rabbi Akiva qui m'enseigne halakha, on va dire discipline absolue, ça c'est Dieu lui-même qui parle, à travers la révélation Moïse, et je m'épuise. Dès qu'il parle à gada, ça, décide-toi, tu acceptes, tu n'acceptes pas. Vous voyez le problème? Et là, le droit venu, Abal, Mashi, Pirchou, Barsoukim, mais ce qu'ils ont expliqué à propos des versets. Konechat, Kefi, Mashi, Nizamenlo, chacun comme ça lui est venu, okay. Chacun suivant son style, son équation personnelle, ça, son inspiration. Non, ici, c'est Nizamen, Nizamen, c'est-à-dire à l'occasion de chaque fois que. Ou Mashéra Abedarto, est-ce qu'il a vu dans sa connaissance? Ou le fils Mashéya Ali Aladarat Minapirushi Maïli Bomdim, ce qui est vraisemblable, ce qui est acceptable, de ce qui est acceptable encore une fois par qui, pour qui et par quel critère, où est le seuil, ça on apprend, Vershéa En Son Prim Aleem, et le reste on ne se base pas dessus. Scandaleux. Okay. Et alors, pieusement, non, on n'est pas pieux à l'université, mais universitairement, on nous cite, voilà, qu'est-ce que c'est que la Haggadah, d'où le cliché, un homme intelligent comme Maïmonide, bien sûr, avait des réserves sur le Midrash. Bon, moi, ça me fait bondir ces choses-là. Alors, je reviens à Shmuel Hanavi. Oui.
Dans quel autre
Je vais expliquer en hébreu. Colma chez Ale, par exemple, vous avez, mais elle est en araméen, mais je vous la remets en hébreu. Vekis, Vekis, Al-Kadartar. Ça, tu peux croire, dans la discussion de la nuit, Vekis, Al-Kadartar, ça peut monter sur ta tête, littéralement, ça peut rentrer dans ta tête. Ça, tu peux croire une chose pareille. Okay? Par exemple, dans ces expressions très plein d'humour, parce qu'au fond, c'est ça, les cuistes n'arrivent pas à comprendre l'humour qu'il y a dans la sagesse talmudique. Et quand vous avez une formule de ce genre, si ce verset n'était pas écrit, on ne pourrait pas le lire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si ce verset n'avait pas été écrit, on ne pourrait pas le lire. Alors, le prophète parle, dit, formule, une formule que seul le prophète a le droit de dire. Par exemple, que Dieu rugit comme un lion. Et alors la Gemara tout de suite, est-ce qu'on parle comme ça de Dieu? Que Dieu rugit comme un lion? On est tellement habitué au pastiche biblique qu'on ne se rend pas compte que le prophète est insolent ici. Il est impertinent, il compare Dieu à un lion. Qu'est-ce que c'est que ce genre d'image piège d'ailleurs, okay? Et alors le Talmud dit, si ce verset n'avait pas été écrit, on ne pourrait pas le lire. Bien sûr, s'il n'est pas écrit, tu ne peux pas le lire. C'est autre chose qu'il veut dire, vous comprenez? Ça veut dire, nous n'avons le droit d'étudier cet élément de sagesse, cet élément de lecture, que parce que ça nous a été mis par écrit. Par exemple, vous voyez, alors, Rikis al-Kadartar, très souvent on arrive à un moment du raisonnement. Chose apparemment invraisemblable qui apparaît dans le raisonnement, alors la Gemara réagit sur elle-même. Est-ce que tu peux penser que c'est comme ça? Par exemple, il y a un enseignement de la Gemara qui dit: celui qui s'est approché de la Torah nu sera enterré nu. Formule talmudique. Alors la Gemara, avec beaucoup d'humour, de nouveau demande: nu, vraiment, tu peux penser, ça veut dire sans linceul? Dit non, nu du mérite d'avoir lu. Et on enchaîne sur la lecture de sagesse. Okay? C'est pourquoi, comme vous savez, au Sefer Torah, on ne suit pas avec la main nue, on suit avec la main en argent ou en or, le yad. Et c'est une des raisons, je crois que je l'avais cité une fois à un séminaire il y a au moins une quinzaine d'années, une des raisons pour lesquelles Maïmonide a nommé son grand traité de code le Yad HaHazaka. La Hazaka, c'est la méthode de la présomption. C'est-à-dire, on va évaluer la présomption d'évidence de telle ou telle hypothèse, l'une par rapport à l'autre. C'est la Hazaka qui donne l'harmonique de présomption de telle ou telle idée, de telle ou telle hypothèse. Dans le sens juridique de ce terme, ça veut dire la méthode de la présomption. Yad Hazaka, c'est un extrait d'un verset, ça veut dire la main forte. Okay? Mais Maïmonide a appelé son code Yad HaHazaka, parce qu'il avait 14 traités dans son code, et vous savez qu'il y a 14 phalanges dans la main. C'est comme ça qu'on appelle, oui, les phalanges. Et Yad, ça fait 14. Yud et Dalet. Vous voyez, si vous comptez le nombre des phalanges, il y en a 14. Bon. Eh bien, il y en aurait 15 s'il n'y avait pas que 2 dans le plus grand. Voilà. Et alors, voilà ce que ça veut dire chez Yahale, Olo Yahale, Aladar. Ça veut dire quelque chose que mon intellect, ma raison, mon intelligence peut accepter ou pas. Voilà. Par exemple, on va rencontrer un ouvrage qui va nous dire que le pharaon du temps de Moïse était un nain qui n'avait que 3. Comment il dit ça? En pan, c'est ça. 3. Enfin, oui, 3. De hauteur,
mais que 3 pieds,
oui, 3 pouces,
non 3 pieds,
oh non, pas
ça fait ça.
Coudée, c'est juste ici, bon, enfin, 3, bon, vous avez compris, c'est pas grave, mais qu'il avait que 3 machins de hauteur,
1m10,
3
pots, très bien, mais que sa main allait d'un côté de l'Égypte à l'autre, c'est écrit comme ça en toutes lettres, d'accord, qui va admettre ça comme vraisemblable, oui, par exemple, alors, je m'en avais une idée, tu comprends pas, j'aide, bon, je comprends pas, que je m'ai dit. La réponse est très très simple. C'est pourquoi j'ai commencé par vous énumérer le nombre d'exemples qu'il enseigne dans son lexique. Qu'est-ce que c'est une kushia? Qu'est-ce que c'est une braïta? Qu'est-ce que c'est une tosefta? Il parle à des ignorants finis, des gens qui n'ont pas de maître pour savoir qu'est-ce que veut dire les mots du Talmud. Alors il leur dit, si tu étudies seul, ce que tu comprends pas ne te base pas dessus. Ça y est, c'est clair. Message. Quand ce qui concerne la halakha, tu dois te soumettre à la discipline parce que c'est la règle pour la collective. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'utiliser une donnée de sagesse que tu n'as pas compris. C'est ça qu'il veut dire. Ben, et la réponse est très simple. Shmuel HaNagid parle pour ceux qui vont étudier le Talmud sans maître. Donc il sait à l'avance qu'ils ne seront pas capables de comprendre. Alors il leur dit, fais attention, chacun à son niveau. Ce que tu comprends, tu peux l'utiliser. Mais ce que tu ne comprends pas, ne touche pas. Il a dit clair parlant de ces problèmes-là. Vous voyez, on a étendu de façon illégitime une méthode légitime dans notre domaine, on l'a étendue de façon illégitime dans le domaine de l'étude de textes se présentant comme révélés, et qu'on ne peut comprendre que par le biais d'un maître, d'un moré, celui qui montre ça, 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 ça. Vous voyez la catastrophe que ça peut faire. Alors on fait dire, on nous présente des faux maïmonides, des maïmonides de faux monnayeurs. Et bien, il n'y a pas de doute. Et donc, je voudrais vous aider à réagir contre cette pente d'habitude mentale qui est extrêmement dangereuse. Voilà.